France Culture.
Un rappel de l'affaire. Le 15 décembre dernier, la Cinémathèque française prévoit de montrer Le dernier tango à Paris, film de Bernardo Bertolucci, sorti en salle en 1972. Une projection prévue dans le cadre de la rétrospective consacrée à Marlon Brando. Aucune médiation spécifique n'est alors prévue pour encadrer cette projection. Pourtant reconnue, ce film comme un symbole de la maltraitance et notamment des violences sexuelles que peuvent subir les actrices sur un tournage. Alors que des associations féministes se mobilisent, le CNC demande à Frédéric Bonneau, le directeur général de la Cinémathèque française depuis 9 ans, de prévoir, je cite, une présentation spécifique. La Cinémathèque annonce alors le 13 décembre qu'un temps d'échange avec le public sera confié à Jean-François Roger, le directeur de la programmation de l'institution depuis 32 ans et par ailleurs critique de cinéma au journal Le Monde. Ce choix, critiqué par les protestataires, ne permet pas d'apaiser les tensions et la Cinémathèque décide alors, in fine, d'annuler la projection. Cette polémique pose notamment la question du rôle des cinémathèques. Doivent-elles être des lieux de patrimoine, des musées du cinéma ou bien des caisses de résonance, des débats qui traversent la société? Et au-delà, qu'est-ce que programmer aujourd'hui et comment le faire? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Natacha Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez co-dirigé la Cinémathèque de Toulouse de 2005 à 2015. Vous êtes spécialiste du cinéma russe et soviétique. Vous menez actuellement des recherches sur la patrimonialisation du cinéma et vous êtes la co-autrice de Raymond Borde, une autre histoire du cinéma, la personne Raymond Borde qui a fondé en 1964 la Cinémathèque de Toulouse. Bienvenue face à vous, Gabriel Trujillo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien du cinéma, spécialiste des cinémas d'Amérique latine, vous êtes essayiste et romancière. Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans à la Cinémathèque française, vous avez dirigé la Cinémathèque de Grenoble et le festival du film court de cette même ville et vous avez notamment publié aux éditions Capricci un ouvrage intitulé Marco Ferreri, Le cinéma ne sert à rien. C'était en 2021. Je précise par ailleurs que le directeur de la Cinémathèque française et les équipes de l'institution ont été contactés et n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'heure seulement. En tous les cas, merci à tous les deux, toutes les deux, d'être présentes ce soir dans Question du soir.
Un point essentiel pour bien comprendre notre fonctionnement et pour commencer à vous répondre, Madame la Présidente, les programmes sont arrêtés 6 mois à l'avance et ne sont donc pas choisis ou repoussés, écartés en fonction de l'actualité. Nous ne choisissons pas ce qui doit être ou ne pas être montré en restant évidemment dans le cadre légal. Je reconnais que nous avons mal apprécié la situation est que nous avons manqué de vigilance et de discernement. Nous aurions dû faire différemment et nous ferons différemment à l'avenir, ce qui aurait évité une annulation de séance, un désordre. Or, la Cinémathèque n'est pas là pour créer du désordre.
La voix de Frédéric Bonneau, il est directeur général de la Cinémathèque française. C'était le jeudi 16 janvier dernier devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans le cinéma. Natacha Laurent, qu'est-ce que raconte pour vous cette affaire, l'annulation aussi de la projection de ce film, ainsi que les excuses à mots couverts que l'on vient d'entendre?
Bonsoir. Je pense que ça pose deux problèmes fondamentaux pour les cinémathèques et le patrimoine cinématographique. Je pense que cette histoire, d'abord, pose la question de la définition du patrimoine cinématographique. Qu'entend-on par patrimoine cinématographique? C'est un périmètre qui a beaucoup évolué au cours des 50-60 dernières années, qui s'est considérablement dilué. Et ça sera l'occasion, je pense, dans l'émission, de revenir sur ce que certains entendent, parce qu'a priori, quand on dit patrimoine cinématographique, on comprend tous films anciens, films du passé. Mais je pense que c'est un territoire beaucoup plus complexe. Et la deuxième réflexion que cela m'inspire, alors je suis historienne et donc mon regard est celui aussi sur le temps, je pense aussi que cette affaire pose la question du rapport au temps dans les cinémathèques, mais au-delà aussi dans notre société, sur le fait que qu'est-ce que le temps fait à nos sociétés, à nos productions, à nos modes de vie, à nos environnements, à nos idées, à nos croyances, à nos réalisations. Et je pense qu'une cinémathèque est un lieu où se croisent, où interagissent différentes temporalités. C'est un petit peu ça que ça m'évoque.
On va revenir sur le patrimoine, on va revenir aussi sur ce que c'est que ces institutions dont on parle trop peu, hein, les cinémathèques. Mais Gabriela Trujillo, votre avis aussi sur cette annulation. Est-ce que vous-même vous regrettez l'annulation de cette projection par la Cinémathèque française ?
Eh bien, je pense que comme chacune et chacun des cinéphiles, oui, on regrette toujours une annulation. Après, je pense que je ne suis pas là pour juger du bien fondé de cette annulation. En revanche, je pense que ce que cela révèle, c'est aussi que le patrimoine cinématographique, que la cinéphilie, que cette chose qui meut les cinémathèques, et en particulier ici la Cinémathèque française, n'est pas un espace dévitalisé, loin de là. Et que, justement, le cinéma continue de cristalliser aussi des choses qui traversent nos sociétés, et qu'il est très important de se poser ces questions-là. Je pense que la cinéphilie, c'est là où chacune ou chacun se sent chez soi, et que c'est pour ça aussi qu'il y a une telle revendication autour de certaines projections. Quant au film, je pense effectivement que la question de l'accompagnement, de son encadrement par une autorité compétente est quelque chose de fondamental pour plusieurs raisons. Elle est pour, par exemple, éviter qu'il y ait des débordements médiatiques, par exemple, parfois aussi, au-delà de la question idéologique, uniquement pour créer aussi du clic ou du buzz. Je pense que ça, c'est une erreur, et c'est la responsabilité non seulement des cinéphiles, mais aussi de la presse, et bien sûr de tous les programmateurs et toutes les programmatrices de... bien situer ce film, mais de ne pas non plus aller oser des mots comme snuff movie, alors que on n'est quand même pas du tout dans ce domaine-là, et que justement les autorités compétentes pour le faire sont ceux et celles qui ont travaillé l'histoire du cinéma et qui sont à même en capacité de contextualiser ces œuvres.
Ce qui est frappant dans ce débat, c'est que toutes les parties prenantes, toutes les acteurs qui interviennent utilisent ce mot que vous avez employé toutes les deux, hein, cinéphile, cinéphilie, c'est presque une valeur qui est revendiquée. Mais Natacha Laurent, qu'est-ce que vous pensez du dispositif originel qui avait été prévu par la Cinémathèque de projeter ce film sans nécessairement le contextualiser? Est-ce que pour vous c'est une erreur, comme le reconnaît Frédéric Bonneau, ou tout bonnement on peut diffuser des fragments, des films du patrimoine cinématographique sans les contextualiser lorsqu'ils posent les problèmes que ce film pose?
Alors je pense que on ne peut pas contextualiser tous les films, parce qu'on ne peut pas accompagner littéralement tous les films, mais un film comme celui-là est un film qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans les débats qui agitent notre société, ne peut pas être proposé sans une attention particulière et sans un accompagnement particulière. Alors, je ne sais pas s'il est question d'autorité compétente, comme vient de le dire Gabriela Trujillo, mais je pense qu'un film comme celui-ci, effectivement, nécessitait quelque chose de particulier. On ne peut pas montrer aujourd'hui Le Dernier Tango à Paris sans réfléchir, sans penser quelque chose de particulier. Et je pense que il y a différentes façons d'accompagner un film. On peut avoir des invités, on peut avoir quelqu'un qui a écrit un livre récemment, on peut envisager même un dialogue, un débat entre deux invités, mais on ne peut pas on va dire proposer un film en imaginant qu'il est suspendu hors sol. Aucun film, les films sont des objets sociaux et culturels, et ils ne sont pas suspendus hors sol, en dehors de notre société. On sait depuis fort longtemps que Roger Chartier l'a montré, depuis Roger Chartier, on le sait pour les livres. Les livres n'existent qu'à partir du moment où ils rencontrent des lecteurs. Ils existent parce qu'ils circulent dans une société, parce qu'ils rencontrent des points de vue, des sensibilités, des histoires particulières. Pourquoi ne pas envisager que la chose soit identique pour les films ? L'histoire de la circulation des films participe pleinement, non seulement de l'histoire du cinéma, mais de l'histoire tout court, et a fortiori de l'histoire du patrimoine cinématographique.
Pourquoi dites-vous cependant, Natacha Laurent, que tous les films ne peuvent pas être accompagnés? C'est bien le rôle, on se dit, notamment de la cinémathèque, des cinémathèques, plus encore de la cinémathèque française, on y reviendra, d'accompagner intellectuellement ces films-là, justement, quand ils sortent?
Bien sûr. Alors, je dis, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas les moyens financiers non plus pour avoir un invité sur chaque séance et que c'est peut-être pas... L'accompagnement ne signifie pas nécessairement, d'ailleurs, un invité. Un accompagnement, ça peut être une construction d'une programmation. On peut avoir un accompagnement pour plusieurs films à un moment. Je veux dire, il n'y a pas de règle générale et il n'y a pas de cadre général pour l'accompagnement. Je disais ça simplement, est-ce qu'on ne peut pas avoir un invité sur chaque séance pour des raisons tout simplement de temps et financières, c'est tout. Mais le geste même de la programmation est un geste qui nécessairement restitue au présent des œuvres qui viennent du passé. Donc le geste de la programmation, c'est de faire se rencontrer des temporalités différentes.
Gabriella Trujillo, alors justement sur ce dispositif originel prévu par les équipes de direction de la Cinémathèque française.
Alors effectivement, c'est un film qui de toute façon, depuis sa sortie dans les années 70, a posé problème. C'est une séquence qui a été discutée, qui a été commentée parfois dans des registres plutôt scabreux. Mais moi, je pense que effectivement, si un accompagnement s'impose dans l'espace de la Cinémathèque, je me demande juste pourquoi ce film est accessible sur les plateformes VOD sans aucun type de médiation. Et je n'entends personne dire il faudrait créer un espace de débat avant que ce film soit accessible à la VOD. On a accès à la VOD sans aucun type, avec un résumé qui parle du chef-d'œuvre sulfureux de Bertolucci. On n'entend pas parler aussi de cet autre phénomène qu'est le fait de découvrir les films sur des VOD
Ça veut dire qu'il serait injuste, selon vous, que toutes les critiques politiques à l'égard de ce film, à l'égard de cette projection plus encore, se cristallisent sur la Cinémathèque française parce qu'on peut voir de toute façon ce film très facilement et sans contexte donné?
Sur la Cinémathèque française ou sur n'importe quel autre lieu qui souhaiterait le présenter. Je pense effectivement que ce sont des interlocuteurs identifiables, ce sont des lieux qui ont une symbolique extrêmement importante, et tant mieux. Et je pense que il faut aussi qu'on reste vigilant sur les moyens de découvrir aussi les films par d'autres biais, surtout à notre époque.
Natacha Laurent, vous souhaitez réagir?
Oui, parce que je pense qu'une plateforme VOD et une cinémathèque, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, ce sont des lieux, l'un est un lieu virtuel, l'autre est un lieu physique, et la Cinémathèque française est un lieu, on le sait, de légitimation du cinéma. Donc, je pense que c'est la position aussi d'une cinémathèque qui rend les choses différentes. Après, Gabriella, je suis complètement d'accord avec vous, le film, de toute façon, depuis sa sortie, et il y a toute une histoire à faire d'ailleurs, de la réception du film depuis sa sortie. C'est un film qui a créé toute une série d'événements et ça fait partie de l'histoire du film. Ce qu'il a créé fait partie absolument de l'histoire du film et on ne peut pas voir le film aujourd'hui, à mon sens, sans savoir ce qu'il a créé depuis sa sortie.
Gabriella Trujillo.
Oui, oui, mais je suis absolument d'accord et je pense qu'on parle de la même chose. Simplement, je pense que comme il y a une autorité, une programmation, quelqu'un qui est à la direction artistique, on va dire, d'un certain programme à la Cinémathèque française, il y a aussi des choix qui sont faits sur les plateformes. Et ces choix sont souvent d'ordre économique aussi. Donc je pense que s'il y a un objet tellement problématique comme celui-là, je suis désolée, il y a d'autres films qui ne sont pas accessibles sans avertissement. Enfin voilà, moi je me dis, parce que autant c'est un lieu virtuel, mais les spectateurs et spectatrices, eux, ne le sont pas.
La voix de Maria Schneider, elle s'exprimait en 1995. Elle décrit les conditions de ce tournage, ses souvenirs et évidemment le viol qu'elle a subi à ce moment-là.
J'ai beaucoup hésité, mais j'étais alors là, très jeune, 18 ans. Et j'ai pas tout compris du scénario. Et j'ai pas compris la perversité de Bertolucci, ce qu'il avait derrière. Je crois que j'étais assez pure et assez directe. Que la nudité pour moi était belle. C'était les années 70, le mouvement hippie, tout était beau, rien n'était sale. Et malheureusement, le film est autre chose. Ça, j'ai compris plus tard.
On a le sentiment, Natacha Laurent, dans ces débats, que deux visions, deux versions de ce que devrait être une cinémathèque s'opposent. D'un côté, une vision très patrimoniale, la cinémathèque comme musée du film, comme musée du cinéma, un endroit peut-être figé par le temps qui devrait conserver les œuvres et les diffuser telles quelles. Et de l'autre, des espaces de légitimation, vous l'avez dit, ouverts sur les débats de société. Est-ce que vous percevez, vous aussi, ce débat avec une telle dichotomie de points de vue ?
J'ai du mal à suivre cette dichotomie parce que les musées d'aujourd'hui ne sont pas hors sol, ils ne sont pas en dehors du temps. Le musée du Louvre, le musée d'Orsay, tous les musées du monde sont ouverts sur les débats qui traversent nos sociétés. Alors le modèle muséal pour une cinémathèque qui est un des modèles possibles, il y en a d'autres, on pourra en reparler plus tard.
Mais c'est le modèle premier, j'allais dire en tout cas, la cinémathèque française.
De la cinémathèque française, oui, absolument. De la cinémathèque française, oui, mais ça n'est pas le modèle de toutes les cinémathèques.
Et on y reviendra, bien
voilà.
Sûr.
Je ne vois pas pourquoi il y a une dichotomie, si vous voulez, entre les deux. Je ne vois pas comment l'un exclut l'autre. Pourquoi ne peut-on pas avoir un endroit où, précisément, on montre les films du passé avec toute la diversité que propose l'histoire du cinéma en termes de type de film, en termes de qualité, en termes d'intérêt esthétique ou d'intérêt documentaire, et en même temps se préoccuper des spectateurs, parce qu'en réalité c'est ça, c'est se préoccuper du présent, du public auquel on va offrir cette programmation. Je ne vois pas justement la dichotomie. Je pense que moi, il me semble que c'est une erreur de renvoyer dos à dos deux façons de voir le lieu. Je pense qu'une cinémathèque est un lieu beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que les deux possibilités que vous offrez.
On va élargir la question à la pluralité des modèles possibles des cinémathèques, mais je voudrais qu'on reste un instant sur la cinémathèque française. Le 7 janvier dernier, lors d'un conseil d'administration extraordinaire, la direction de la cinémathèque française a dit regretter un loupé. Un texte rédigé par le président et le directeur général de la cinémathèque a mis le conseil d'administration d'accord sur plusieurs points. L'un d'entre eux, je le cite, « La mission de la cinémathèque est de montrer tous les films de l'histoire du cinéma. Il n'est pas question de se laisser dicter la programmation à l'occasion des débats qui traversent par ailleurs la société française, indépendamment de leur bien fondé et de leur nécessité. » Fin de citation, c'est bien de ça dont je parlais. C'est un espace, une institution tout de même qui se dit, qui se revendique, fermée au débat de société, au débat contemporain. Qu'est-ce que vous pensez, Gabriela Trujillo, de ce point de vue, de cette position ?
Je ne pense pas que ce soit une fermeture au débat contemporain. Je pense que c'est une institution qui...
Je viens de lire ce qu'a dit le conseil d'administration à l'occasion des débats qui traversent par ailleurs la société française. C'est quand même le fait de revendiquer une fermeture...
Bien sûr, mais je pense que le cinéma, de toute façon, n'échappe pas à son époque. Il y a aussi une excellente programmation sur le cinéma contemporain qui est organisée aussi à la Cinémathèque française. Je pense aussi que la plupart, effectivement, de gestes de programmation sont éditorialisés, sont présentés, effectivement, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que commence aussi le travail d'accompagnement. Par ailleurs, je ne peux pas commenter ce qui a été dit au 7 janvier, je ne travaille pas pour la Cinémathèque française, mais je pense aussi, de ma connaissance de l'institution, qu'il y a d'autres aspects dont on parle peu, c'est-à-dire qu'il y a tout un service qui est aussi là pour accompagner les films et pour faire en sorte qu'on puisse en discuter, pour ne pas fermer la porte justement au débat. Simplement, je pense que le lieu veut se construire aussi comme étant un lieu de référence pour les chercheurs, pour les professionnels, et que la parole doit sortir justement des gens qui pratiquent le cinéma. Je pense que c'est peut-être cela dont... Enfin, en tout cas, c'est un peu mon intuition. Je ne sais pas exactement si je réponds à votre question.
Vous y répondez, et dans le même temps, Natacha Laurent, il se défend aussi ce point de vue de dire une institution culturelle veut se fermer au débat contemporain pour ne pas subir l'air du temps, pour ne pas subir aussi les pressions diverses qui traversent le corps social.
Je ne sais pas pourquoi on parle de pression. Je pense qu'on Moi, il me semble que dans toute cette discussion, il y a un déficit d'histoire. C'est-à-dire que on néglige ce que le temps... Le temps est quelque chose, est une donnée avec laquelle nous devons tous vivre. Et le temps ne peut pas s'arrêter et il travaille les œuvres. Et nous n'avons pas... Je ne pense pas qu'une cinémathèque soit un panthéon. C'est pas un lieu qui enferme des astres morts. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est totalement... Je pense que c'est illusoire. Cette éternité-là, on sait bien qu'elle est illusoire. Mais ça ne veut pas dire céder aux pressions du temps. Ça veut dire simplement vivre dans son temps et continuer d'amener vers un public qui rajeunit, d'amener des œuvres du passé en apportant le passé et en montrant comment ces œuvres ont été possibles. Parce que le dernier tango à Paris, il faut aussi expliquer pourquoi ça a été possible. Comment on a pu tourner un film comme ça à cette époque-là. C'est aussi ça qui est intéressant et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux la société des années 70. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ce travail-là de rencontres véritablement. Pour moi, je tiens vraiment à cette dimension-là de rencontres des temporalités, comme l'a formidablement bien montré un historien du contemporain qui était Pierre Labouri, sur l'entrelacement des temporalités, la confrontation des temporalités. C'est là qu'on trouve justement le sens aussi, le sens des œuvres.
Gabriela Trujillo, vous avez levé la main pour réagir.
Non, je suis absolument d'accord avec cela parce que même au sein, au cours des années 70, déjà dans Sois belle et tais-toi, le film de Delphine Seyrig, où Maria Schneider prend la parole, eh bien, elle dénonce déjà un entre-soi de ces hommes. Elle dénonce déjà sa mise à l'écart par Bertolucci et Brando, qui travaillaient le scénario, qui retravaillaient le scénario chaque matin sans la consulter. Parce qu'elle était débutante et cette forme, ce comportement, elle l'a dénoncé à ce moment-là. Et moi, je suis ravie qu'à notre époque, on puisse justement continuer de parler de ça et qu'on écoute quand une actrice a ce type de revendication.
Alors, à propos du temps et du travail du temps sur les œuvres, la voix d'Henri Langlois, c'était en 1961. Il explicite la raison d'être de la Cinémathèque française dès ses débuts.
Lorsque nous avons découvert que rien ne se conservait dans le cinéma, nous sommes allés trouver tous les metteurs en scène et tous les producteurs. Nous avons constitué une association et nous sommes partis sans un sou, mais avec beaucoup de films déjà. Je crois qu'on avait trouvé la formule qui consistait à dire aux gens « Vous êtes propriétaire de ces films, au lieu de les laisser dans les laboratoires, groupez-les sous notre étiquette, et à partir de ce moment, une cinémathèque existe. » À l'origine, nous avions pensé à sauver les chefs-d'œuvre. Mais très vite, nous sommes aperçus qu'il y avait les chefs-d'œuvre qui n'étaient plus des chefs-d'œuvre, il y avait des films qui passaient pour des navets qui étaient des chefs-d'œuvre, donc on a commencé à se dire « Attention, il faut... » penser à l'œuvre totale des metteurs en scène. Puis de là, on a commencé à s'apercevoir que même des films qui sont des navets, même des films de mauvais metteurs en scène, sont des documents extraordinaires pour l'histoire des mœurs, ou pour l'histoire même de la pensée humaine, ou pour l'histoire de la psychologie des foules. Par conséquent, on en est arrivé à l'idée qu'il fallait tout garder.
Ça résonne très, très fortement, très vivement avec ce que vous expliquiez il y a quelques instants, Natacha Laurent. Une cinémathèque, en tout cas la cinémathèque française telle que l'imaginait, telle que la pensait Henri Langlois, hein, il l'a créée en 1936, c'était ce point de rencontre, peut-être ce point d'articulation entre les œuvres et le temps.
Oui, alors il faut aussi contextualiser 1936, la création de la Cinémathèque française. C'est-à-dire que c'est effectivement la décennie de création des premières grandes cinémathèques dans le monde. Mais ça n'est pas le début de la prise de conscience de la nécessité de conserver les œuvres. En fait, c'est cette pensée beaucoup plus ancienne qu'on le dit. Elle est quasiment contemporaine de la naissance du cinéma, avec Matuszewski à la fin du 19e siècle. Mais le modèle qui se met en place avec la Cinémathèque française en 1936 est très français, c'est à la même période que sont créées d'autres archives du cinéma dans le monde, en Europe ou dans des musées aux États-Unis. Mais ce qui se passe en 36 est très français. Et dans la façon dont Henri Langlois a conçu la Cinémathèque française, c'est effectivement, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, c'est le modèle du musée qui domine. Mais il existe deux autres modèles qui ont nourri l'invention des cinémathèques et des lieux de conservation du patrimoine cinématographique. Il y a le modèle archivistique et qui est latent d'ailleurs dans ce qu'on vient d'entendre, hein, on l'entend dans ce que Langlois dit, qui est donc de créer des lieux qui conserveront les objets, qui conserveront les supports, qui seront des archives pour l'avenir. Et puis, il y a un autre modèle qu'on connaît moins, mais qui est clairement revendiqué par différents acteurs de la patrimonialisation, c'est le modèle de la bibliothèque. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu, à partir du moment où on a une collection avec les archives, c'est un lieu où d'où l'on peut faire sortir les films, où l'on prête des films, et les cinémathèques ont été et restent des lieux où l'on prête des films dans des conditions très particulières, très encadrées bien sûr. Et puis il y a ce troisième modèle, celui donc le plus connu pour Henri Langlois, qui est le modèle du musée, puisqu'en fait c'est un lieu où on expose. Et donc, on programme, puisque pour exposer un film, d'abord, on le programme. Alors, voilà, la question des expositions est encore une autre question.
Mais ces trois modèles que vous mettez en lumière soulèvent plusieurs questions. Et peut-être que la première qui me vient, c'est celle de la patrimonialisation. Qu'est-ce que cela veut dire de préserver des œuvres, de les rendre accessibles au public, de les présenter, alors que ces œuvres et ce patrimoine sont aujourd'hui accessibles partout? Est-ce que la fonction des cinémathèques, ce triptyque que vous venez de décrire, Natacha Laurent, est-ce que selon vous, Gabriela Trujillo, il faut peut-être le repenser un peu plus en profondeur aujourd'hui?
Moi, je pense surtout que on assiste aussi à la découverte d'une sorte d'Atlantide. C'est-à-dire que on a des choses qui effectivement sont accessibles un peu partout, mais on découvre aussi énormément d'autres éléments. Et c'est le travail aussi des cinémathèques de valoriser cela, de revoir, peut-être de remettre en perspective. Par exemple, moi j'entends parler de l'histoire de la cinémathèque française et je sais l'importance d'Henri Langlois, mais je sais aussi qu'Henri Langlois n'était pas seul, qu'il y avait Georges Franju avec lui, qu'il y a eu Jean Mitry, qu'il a aidé aussi à rédiger les statuts de l'institution. Je sais aussi, et je sais qu'il y a des gens à l'intérieur même de la Cinémathèque française, et nous sommes plusieurs autour du monde à nous intéresser aussi aux femmes qui ont construit la Cinémathèque française, c'est-à-dire Lotte Eisner, Musidora, Germaine Dulac, Marie Merson, Marie Epstein. Et là aussi, je pense que, de ce point de vue, le travail, même des cinémathèques, continue de se faire et reste à faire. Il ne s'agit pas uniquement montrer les films. On a des initiatives partout et les salles commerciales sont aussi dynamiques dans la monstration de films restaurés et c'est extrêmement important. Donc effectivement, le champ d'action des cinémathèques, il se diversifie et comme l'a dit Nathalie, eh bien on assiste aussi à la question du musée. La Cinémathèque française est aussi le musée du cinéma.
Natacha Laurent.
Oui. Oui, bien sûr, cette histoire des trois modèles, cette histoire est dépassée. On est clairement dans un moment où le territoire, les dispositifs des cinémathèques sont complètement questionnés et, à mon avis, remis en question. On est dans une période de profond bouleversement pour ces institutions. Je vois trois bouleversements essentiels. Le premier, c'est la dilution des frontières du patrimoine cinématographique. Je crois qu'il est frappant de remarquer que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, trentaine d'années, sans doute un peu plus, les dispositifs de promotion des films anciens ont changé et ont emprunté beaucoup, pour une bonne cause, ont emprunté beaucoup à ce qu'on appelle les films frais, c'est-à-dire aux films du présent. On promeut les films anciens de la même façon que l'on promeut les films du passé. Des avant-premières, des restaurations qui ne sont en fait que des transferts, des montées des marches, des invités prestigieux... Et pour le public, la frontière, on trouve maintenant bien sûr aussi les films, on va en reparler sur des plateformes. Et pour le public, qu'est-ce qui fait la différence finalement?
Ça veut dire que les films du passé deviennent des films du présent, c'est ce que vous voulez dire?
Exactement, c'est ce que je veux dire. Et cette abolition des frontières du temps, j'y reviens encore, elle me semble fondamentale dans ce qui arrive aujourd'hui aux cinémathèques. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la dilution des frontières du patrimoine cinématographique. Le deuxième bouleversement, c'est la dissémination des écrans, dont Gabriela a parlé tout à l'heure. Tout de suite, vous avez parlé des plateformes. Mais c'est déterminant. C'est-à-dire que les cinémathèques ont été, pendant de longues années, des lieux qui ont eu quasiment un monopole des films du passé. Ce monopole n'existe plus depuis fort longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que les cinémathèques font? Et notamment avec, en plus, des pratiques qui ont considérablement changé. La dissémination des écrans fait que nous découvrons toutes et tous les films de façon très différentes et on n'est plus ensemble dans une seule salle pour découvrir sur grand écran un film d'il y a 50 ou 60 ans. Et enfin, il y a un troisième point qui me semble aussi très important, c'est la diversification des acteurs qui participent à la patrimonialisation du cinéma et la participation d'un acteur qui est décisif aujourd'hui et qui ne l'était pas au moment de la fondation des cinémathèques, c'est le marché. C'est la dimension économique. L'importance qu'ont pris les ayants droit, par exemple, c'est quelque chose qui a considérablement modifié les fonctionnements et les pratiques des cinémathèques.
L'autre chose, l'autre acte qui est bouleversé en profondeur, naturellement, c'est l'acte aussi de programmer. Qu'est-ce que programmer dans une institution publique? Qu'est-ce que programmer dans une institution culturelle? Je voudrais citer Fabien Gaffèze. Il est directeur artistique du Forum des Images. Il était interrogé par Télérama. Je vais vous faire réagir Gabriela Trujillo. Il disait, quand on programme, c'est son cas, il ne s'agit pas simplement d'exprimer une cinéphilie, on en revient à ce terme, une doxa qui ferait autorité. On n'est pas programmateur dans son salon. Prévoir une rétrospective des films d'Otto Preminger tous les 5 ans avec le seul prisme de la question de l'auteur-réalisateur ne suffit plus. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle il faut aussi repenser, revoir en profondeur ce qu'est l'acte de programmer dans une cinémathèque, quel que soit d'ailleurs son modèle afférent?
Je pense qu'on peut questionner effectivement les diverses manières de programmer. Après, que le choix, on va dire, initial de la Cinémathèque française était celui de la monographie, puisqu'on hérite aussi d'une tradition de découvrir et cette volonté de découvrir le cinéma d'une réalisatrice ou d'un réalisateur d'un coup. Eh bien, je pense que c'est un choix comme un autre. Donc, effectivement, on peut le discuter, mais moi, je pense que le public, il suit. Aussi, je pense que si on voit le taux de fréquentation de la Cinémathèque française, on se rend compte que souvent, un film en appelle un autre et que c'est dans cette dynamique, justement, que certains films d'un auteur ou d'une autrice vont s'éclairer les uns les autres. Moi, je suis extrêmement heureuse de découvrir aussi les œuvres par cette tradition monographique. Mais peut-être que, justement, parce que c'est ainsi que j'ai bâti, on y revient à nouveau, ma cinéphilie. Moi, je pense que ce qui est très riche par rapport à ce que dit Fabien Gaffèze, c'est que ça montre aussi la multiplicité et la complémentarité des offres culturelles. C'est que je ne vois pas pourquoi un modèle devrait exclure un autre. Et que chaque lieu, et je pense que nous avons été toutes deux confrontées à ça, tous les lieux ne peuvent pas se permettre de programmer d'une manière ou d'une autre. Nous avons aussi d'autres contraintes.
Il y a le modèle de la monographie qui se fait à la Cinémathèque française. La monographie, j'explicite peut-être de quoi il s'agit. Ce sont des rétrospectives, des cycles qui concernent l'œuvre tout entière ou partielle d'un auteur réalisateur.
Exactement. Et c'est aussi quelque chose pour le public d'essentiel, puisque si on veut découvrir un pan complet de l'histoire du cinéma, souvent, on va négliger peut-être des films parce qu'ils partent d'un choix, parce qu'ils partent d'une forme de programmation qui va en exclure d'autres qui peut-être pourraient justement être tout à fait pertinents. Donc moi, je pense que l'approche monographique, elle se vaut. Mais c'est un avis strictement personnel. Et je pense qu'il y a d'autres lieux qui sont justement des lieux qui peuvent réagir, qui peuvent avoir justement cette volonté et elle se célèbre. Après, je pense que personne, malheureusement, même si c'est quelque chose qu'on voudrait, puisque maintenant qu'on peut découvrir des films dans son salon, on peut faire des ciné-clubs clandestins, on invite les gens à voir des films chez soi, mais je pense qu'aucune programmation en termes professionnels ne se fait en dehors d'une salle où on est attentif à son public.
Natacha Laurent, votre point de vue sur ce que disait Fabien Gaffèze, il allait même un peu plus loin, il disait, lui, qu'il fallait diversifier les façons de programmer. Il y a évidemment la monographie qui est reine dans la politique du réalisateur, de l'auteur-réalisateur, mais il y a aussi des manières thématiques de programmer, il y a des manières stylistiques aussi, des manières esthétiques. Votre point de vue sur ce sujet?
Mon point de vue, c'est d'abord que la programmation est au cœur de l'identité d'une cinémathèque, quelle qu'elle soit, puisqu'on a deux grandes missions dans une cinémathèque, malgré tous les bouleversements dont on a parlé tout à l'heure, c'est la conservation et la programmation. Et c'est l'articulation des deux qui fait qu'on est dans une cinémathèque. Donc, si on perd l'une des deux missions, nous ne sommes plus une cinémathèque. Ça, c'est le premier point. La programmation, je pense, moi, je suis tout à fait, j'adhère tout à fait à ce que vient aux citations
de
Fabien Gaffèze. Mais je voudrais dire que cela existe depuis fort longtemps. Jean-Loup Passec, à la fin des années 70, à Beaubourg, avait déjà des gestes de programmation qui étaient tout à fait différents d'une approche monographique. Et il en est resté des programmations absolument magnifiques et qui font maintenant référence dans l'histoire des cinémas. C'est une approche par nationalité qui, à l'époque, était absolument mais passionnante et révolutionnaire. On peut avoir des approches par thématique, on peut avoir des approches par genre cinématographique, on peut avoir des approches par mouvement, on peut avoir des approches par période. On peut, je veux dire, la variété est immense et ce qui est le cinéma est divers. Et avoir une approche monographique qui est le choix de la Cinémathèque française, mais qui n'est pas le choix nécessairement des autres cinémathèques, c'est aussi parce que la Cinémathèque française est héritière d'une histoire très particulière dans laquelle la politique des auteurs est absolument centrale. Donc c'est aussi un héritage qu'elle porte. Ce que je voudrais dire, c'est que pour revenir aussi au début de l'émission.
Vous dites, pardonnez-moi, je me permets de vous couper pour bien comprendre ce que vous expliquez là, vous dites aussi qu'elle est garante par conséquent de cet héritage.
Je ne sais pas si elle est garante, en tous les cas elle en est porteuse. Voilà. Après, à elle de voir ce qu'elle fait d'un héritage. C'est toujours compliqué de gérer un héritage.
D'assumer un héritage. Oui.
Absolument, quel qu'il soit. Donc mais je veux dire, on comprend d'où ça vient en tous les cas. Je suis toujours attachée au processus et à retrouver les origines des phénomènes. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la question des femmes, c'est que quand on programme de cette façon-là, c'est compliqué de programmer des femmes pour une raison assez simple. C'est que les femmes, dans l'histoire du cinéma, sont rarement uniquement des réalisatrices, à part quelques exceptions. Les femmes sont souvent techniciennes, et monteuses, et scénaristes, et productrices. Et puis à un moment, elles ont réalisé un film, deux films. Elles n'entrent pas dans cette case-là.
Donc la politique de l'auteur-réalisateur ne permet pas ce point d'entrée ?
Je pense qu'elle la rend compliquée. Elle la rend compliquée parce qu'elle enferme, me semble-t-il, elle est quand même une vision particulière de l'histoire du cinéma et qui, à mon sens, ouvre la voie plutôt à une répétition de panthéons qui sont déjà construits et déjà institués. Il me semble que si on veut renouveler ce regard-là, on a tout intérêt de temps en temps à s'échapper de cette approche.
Gabriela Trujillo, votre point de vue, est-ce que pour diversifier justement les approches, les façons aussi de percevoir, de sentir les films, le cinéma, est-ce qu'il faut se dégager, se prendre un peu de distance justement à l'égard de cette approche strictement monographique ?
Mais bien sûr, je pense que ça peut enrichir aussi la manière dont on découvre les films. Et effectivement, toutes ces approches, on peut être amené à faire le choix à un moment ou à un autre. Après, je me demande si une réalisatrice, elle ne serait pas juste... Enfin voilà, je me demande la prégnance de ce modèle auteuriste, si on y échappe toutes et tous à notre époque. Mais évidemment que c'est d'autant plus... Ça fait communiquer les films, ça crée des tension entre les films et tous les gestes de programmation sont absolument merveilleux quand on réfléchit justement, quand on sort de cette perspective auteuriste et que justement on essaye de créer des échos, des résonances entre les films, que ce soit à partir de périodes différentes, que ce soit à partir de genres différents, mais l'approche anthologique, l'approche justement thématique, à ma connaissance, elle est aussi entrée quelque part dans la programmation de la Cinémathèque française. Mais à nouveau, je pense que ce serait réduire un peu la question à uniquement sa dimension auteuriste.
Merci à toutes les deux de cette discussion, de ce débat. Natacha Laurent, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez dirigé la Cinémathèque de Toulouse, une autre cinémathèque de 2005 à 2015. Vous êtes spécialiste de cinéma russe et soviétique et vous menez actuellement des recherches sur la patrimonialisation du cinéma. Gabriela Trujillo, vous êtes historienne du cinéma, spécialiste des cinémas d'Amérique latine. Vous êtes essayiste et romancière après avoir travaillé pendant plus de 10 ans à la Cinémathèque française. Vous avez dirigé la Cinémathèque de Grenoble, encore une, et le Festival du film court de la même ville. Merci à toutes les deux d'être venues ce soir dans Question du soir.
Merci.